Alors, pour la prochaine heure encore, nous vous faisons entendre vos demandes spéciales de voix féminines québécoises en cette journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. On aura l'occasion de parler de charge mentale un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je voudrais vous qu'on discute ensemble, de vous poser la question. Est-ce que les conjoints de fait, d'après vous, devraient avoir les mêmes droits et les mêmes obligations que les couples mariés? Alors, pour répondre à cette question, me donner votre opinion là-dessus par rapport à ce que vous vivez, d'ailleurs, si vous voulez témoigner, vous êtes les bienvenus en faisant le 514-790-9850 de l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Avec nous, elle est avocate en droit de la famille, Maître Anne-France Goldwater. Bonjour, Maître Goldwater.
Bonjour, comment ça va?
Très bien. Vous ramenez donc cette idée que vous aviez déjà amenée il y a quelques années au moment où vous aviez plaidé jusqu'en Cour suprême l'affaire Éric contre Lola. Vous disiez à l'époque, Lola est discriminée parce qu'elle ne peut pas réclamer une pension alimentaire pour elle-même. Elle n'a pas les mêmes droits que ceux accordés aux couples mariés. Là, vous récidivez en disant, Maître Goldwater, il faut absolument, là, en attendant la réforme du droit de la famille, que les conjoints de fait aient un meilleur encadrement juridique. Qu'est-ce que vous proposez, Maître Goldwater?
Je propose de reconnaître toutes les unions des Québécois et Québécoises lorsque deux personnes décident de fonder leur couple et leur foyer, leur famille, qu'ils puissent à la fin de leur union, que l'union arrive à la fin par la mort naturelle d'un conjoint ou que ça arrive à la fin à cause d'une séparation, qu'ils puissent avoir un encadrement, puis le même encadrement pour protéger les conjoints, les enfants qui en ont besoin. Avec des gens mariés, on se pose pas la question est-ce que les époux ont besoin de protection? On prend ça pour un acquis. Et bien entendu, à l'époque moderne, il y en a plein de couples qui ont choisi ne jamais avoir d'enfants ou ont choisi de garder leur compte à part ou d'avoir deux professions indépendantes et chacun a sa fortune. Mm-hmm. Et ils sont capables de se donner la main à la fin de l'union sans une discussion difficile économique. Mais ça, c'est une infime minorité des gens. J'ai toujours dit, les gens riches et fortunés n'ont jamais besoin d'une protection de la loi. C'est pour le commun des mortels que la loi existe.
Ouais. Et vous avez une cause, justement, Nathalie contre Pierre. Parlez-nous de cette cause, Maître Goldwater.
Il s'agit d'un couple là qui sont ensemble depuis près de 30 ans. Alors, c'est leur union principale de leur vie. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Ils sont proches en âge. Ce sont deux Québécois de souche. Sachez, j'ai fait très attention cette fois-ci pour le cas type que ça soit ça, que j'entends pas des remarques désobligeantes que la femme vient d'ailleurs, mm-hmm. surtout quand l'autre a été baptisé Lola. Quelle offense, eh? Et c'est pas juste dans le chez nous pour toutes les femmes aujourd'hui qui ont vu hier soir l'entrevue de avec Oprah de Meghan et Harry. Mm-hmm. On voit dès que vous êtes d'ailleurs, vous êtes discriminés. Juste pour ce fait-là, les Anglais n'ont jamais accepté Meghan. Et puis voilà le résultat dans sa vie. Puis vous allez dire, ah, c'est le misère des riches. Mais ici, moi, je parle pas de misère des riches. Je souligne encore, des riches n'ont jamais besoin de la protection du droit parce que les gens riches ont déjà leur avocat, leur notaire, leur banquier. Et j'en ai ras-le-bol de voir même des femmes fortunées, professionnelles, en pouvoir, qui ont le même discours que les hommes de l'autre époque, qui veulent pas partager, qui disent « mais moi, je suis indépendante ». Et je dis à toutes ces femmes-là, surtout aujourd'hui, leur Journée internationale de la femme, êtes-vous capable de réaliser que vos sœurs, vos concitoyennes peuvent ne pas être si fortunées que vous, madame la politicienne?
Est-ce que Nathalie Contrepierre, si on vient à cette cause-là, est-ce que c'est le cas de Nathalie? Elle s'est appauvrie après l'union? Parce que quand vous dites 30 ans, ils étaient en union de fait, ils n'ont jamais été mariés, là, le couple. Maintenant,
c'est ça. Ouais. Oui, parce que, comme arrive d'habitude, quand on parle de choix de marier, le problème, c'est pas ce genre de choix sur lequel on a un contrôle. Le choix dépend de la volonté de deux. Et très souvent, la personne plus fortunée, plus souvent le mec, veut pas se marier parce qu'il est conscient qu'il va avoir des obligations.
Dans ce cas-ci, Nathalie, elle était restée à la maison pour s'occuper des enfants, des 4 enfants, pendant que Pierre, lui, faisait fructifier son entreprise, c'est bien ça?
Exactement ça. Et la raison pour laquelle aussi c'est un cas type, c'est qu'il n'y avait pas d'autres problèmes. C'est du monde qui s'aimait beaucoup, qui aimait leurs enfants beaucoup. Le seul hic dans leur relation est arrivé qu'en vieillissant, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas un actif à son nom, qu'elle n'a pas une préparation pour un avenir incertain pour sa retraite. S'il y a un problème, s'il y a une séparation un jour, elle serait laissée dans le dénuement, peut-être pas total. Elle n'est pas, s'il était complètement démuni et si lui était complètement démuni, on n'aurait pas une cause.
Mais
la
là,
cause
dans ce
arrive
cas,
parce qu'il y a un écart.
Voilà, Nathalie, elle a eu quoi finalement après la séparation? 30 ans de vie commune, 4 enfants plus tard, une situation donc professionnelle pour Pierre, pour le couple en fait, parce que Nathalie a toujours été là. Donc, et au moment de la séparation, qu'est-ce qu'elle a reçu, Nathalie, du couple et de l'équité du couple?
Ah, mais là, bien sûr, je pourrais pas entrer dans ces détails parce qu'on voit chaque fois que si j'identifie le moindre détail, il y a quelqu'un qui peut se plaindre en dire « Ah, je pense que c'est ma voisine, ma cousine,
ouais, je
ma
comprends.
Tante. »
Mais sans nous dire trop d'infos, Maître Goldwater.
Sans dire trop, ouais. Je vais dire ceci. Ouais. On avait commencé la chose paisiblement pensant que c'était pour se régler parce que quand même, une relation près de 30 ans, ça prend pas la tête à Papineau pour réaliser qu'il faut qu'il y ait un règlement décent. Mais c'est pas la position que monsieur a prise. Il considère que madame ne devrait avoir, disons, beaucoup, 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 beaucoup moins que ce qu'une femme mariée pourrait avoir. Mmh. Et je vais m'abstenir de donner les détails pour voir à quel point c'est.
Qu'aurait reçu une femme mariée, par exemple, dans un cas comme ça? Est-ce qu'un couple marié qui se sépare, on se sépare en deux? Est-ce que ça marche comme ça?
Mais en plein ça. Premièrement, on aurait le patrimoine familial. Donc, ça veut dire la maison, les meubles, les autos, s'il y a un chalet au nord ou un condo en Floride, selon les moyens de chaque couple, c'est partagé en deux. Le REER, un fonds de pension, le Régime de rente de Québec. Vous savez, depuis que le gouvernement a instauré le patrimoine familial en 89, les gens n'arrivent plus à signer des contrats de mariage chez le notaire parce que pour le commun des mortels, ça s'applique à personne. La fortune typique même de la classe fortunée se retrouve dans tout cela. Oui, n'est-ce pas? Quand on est rendu à notre maison, puis notre chalet, puis nos autos, puis ci, puis ça, on a couvert 95% de la richesse de 95% des gens. Et quand on reste ici pour l'aspect du business, de l'entreprise de monsieur, la Cour suprême a dit depuis des décennies, lorsque la femme aide son conjoint ou son mari pour l'entreprise, soit directement ou soit en prenant soin du foyer des enfants, elle a droit de compenser. Le seul problème, c'est qu'au Québec, notre interprétation de tout cela est très pingre. Lorsque, ailleurs au Canada, depuis 1978, quand ces jugements ont commencé à sortir de la Cour suprême, les lois provinciales ont évolué pour appliquer ces enseignements de la Cour suprême. Donc, c'est uniquement au Québec qu'on cherche expressément à appauvrir la femme québécoise et ses enfants, parce que nos pensions alimentaires pour enfants sont les plus basses au Canada, au détriment même des enfants des couples mariés.
Voilà. Bon,
si moi, j'étais une épouse et je vivais à Gatineau, je déménagerais du jour au lendemain à Ottawa.
Ah oui?
Je vous jure, j'irais de Gatineau à l'autre côté du pont. Votre pension alimentaire pour vos enfants est 4 fois la pension. Alors, que vous travaillez pas, c'est pas la où est la pertinence? Les enfants devraient avoir le même standard de vie, mais ça, ce n'est pas protégé au Québec, pour aucune femme.
Oui. Et ça, là, bon, il y a la réforme du droit de la famille qui s'en vient, je ne peux pas croire que ça sera
bonne chance.
Oui. Ah oui?
Chantez-moi pas cette chanson. Chaque gouvernement a fait la même promesse, ce sont des promesses vides de contenu. Les libéraux l'ont promis, les PQ l'ont promis, les caquistes, quel nom malheureux, les caquistes, pour les anglophones quand même, les caquistes l'ont promis, ça, c'est toujours... Moi, j'ai plaidé ça il y a 10 ans. J'ai dit, c'est la règle de manana, manana.
Toujours demain, demain. Ouais.
Toujours demain. Il y a une forme de féminisme pernicieuse au Québec, punitive contre la femme. Ce ne sont pas toutes les femmes, Isabelle, qui vont mener la vie que vous et moi, nous menons.
Vous parlez
où nous avons un salaire.
Vous parlez de sexisme systémique, carrément.
Ah, exactement. Ouais. C'est un sexisme systémique.
En même temps, Maître Goldwater, allez-y, votre seul choix, c'est?
Votre seul choix au Québec, c'est mener la vie d'un homme. Si vous choisissez de mener la vie d'une femme, là, ou traditionnellement d'une femme, là, vous êtes puni en société québécoise. Je ne sais pas pourquoi.
En même temps, M. Goldwater, tout ce que vous nous dites, quand il y a des enfants, moi, je comprends tout à fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, dans le cas de Nathalie Contrepierre, 30 ans en union de fait, Nathalie est restée à la maison à s'occuper des enfants. C'était son travail. C'est la Journée internationale des droits des femmes, 8 mars. J'espère qu'on a compris tous que une femme qui reste à la maison pour élever 4 enfants, c'est une job plus qu'à temps plein. Et même si on ne rémunère pas le travail des femmes à la maison qui éduquent leurs enfants, elle a contribué autant que son conjoint pour l'équité de la famille. Alors qu'elle se retrouve au moment de la séparation avec moins que la moitié, il y a comme une inéquité. En même temps, vous vous dites, il faudrait que tous les conjoints de fait soient traités comme ça. Est-ce que ça inclut les conjoints de fait qui n'ont pas eu d'enfants ensemble?
Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Premièrement, on ne sait pas pourquoi ces gens n'ont pas eu d'enfants. Est-ce que la femme n'a pas pu? Je connais plein de femmes qui ont fait des sacrifices quant à leur santé pendant des années en essayant d'avoir des enfants, n'ont pas pu avoir. Est-ce qu'on va les punir, ces femmes-là? Combien de femmes où c'est le mari qui a dicté lorsque, par exemple, une deuxième union, la femme voulait avoir un enfant, lui, il a dit non, puis elle fait un sacrifice pour lui. J'ai eu un cas où une femme a sacrifié l'opportunité d'avoir des enfants parce que son mari devait prendre soin de sa jeune sœur handicapée. Écoutez, l'homme est honorable. Je dis pas ça pour offenser les hommes. Quel homme va prendre soin de sa petite sœur pour qu'elle se retrouve pas dans une institution? Et quand il épouse sa femme, il demande à sa femme de l'aider. Alors, les sacrifices sont absolument à l'honneur des deux. Mais à la fin de l'union, la dame a sacrifié sa carrière. Elle a travaillé, mais juste à temps partiel. Et là, elle n'a jamais eu d'enfant. Alors, aller punir les femmes selon qu'est-ce qu'elles sont capables d'accoucher, je ne suis pas en accord avec ça. Mon meilleur exemple, c'est l'Israël. L'Israël, c'est le pays le plus féministe sur la planète parce que toutes les femmes, comme tous les hommes, font leur service militaire.
Ouais.
Et c'est un service militaire actif.
Restons sur la question des conjoints de fait sans enfants parce que, à la rigueur, je suis d'accord avec vous sur l'union de fait versus le mariage quand il y a des enfants parce que ça a été très long avant qu'on ait la règle du patrimoine familial. Il y a encore beaucoup de gens là, qui semblent ignorer, mais bon, heureusement, il y a ça tout de même, minimalement. Mais quand il n'y a pas d'enfants dans une union, puis je pense aux jeunes couples là, qui s'accotent, là, entre guillemets, là, hein, Matt Goldwater, on s'accote, on est accoté sur l'autre, c'est-à-dire on vit ensemble, mais bon, on ne sait pas combien de temps on va faire. On sait qu'un couple, en général, en moyenne au Québec, je ne veux pas être donneur ce matin, mais on dit que c'est à peu près 5 ans. Hein. Il y a même eu des livres là-dessus, comme quoi l'amour dure 3 ans. Bon, on se donne une petite couple d'années de plus, mettons que c'est 5 ans en moyenne. Au bout de 5 ans, on change des couples. Souvent, il y a des gens sans être trop cyniques qui vont se dire en jeune, bon, comment choisir ton conjoint ou ta conjointe? Essaye de prendre quelqu'un avec qui tu vas avoir une bonne gestion de garde partagée ou avec qui tu vas avoir des bons rapports parce que c'est pas toujours évident. Mais quand il n'y a pas d'enfant, Maître Goldwater, ça devient du choix de deux adultes. Pourquoi un devrait-il, au moment de la séparation, payer quoi que ce soit à l'autre? Puis je comprends les cas que vous avez donnés qui m'apparaissent comme étant des cas, peut-être, bon, c'est des cas particuliers, mais le plus grand nombre de cas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va vouloir prendre une chance d'aller vivre à deux, là.
Mais quelle est la différence entre le cas que vous me donnez et le cas d'un couple qui fait la même chose marié? Disons, le jeune couple, le même jeune couple que vous avez visualisé, il décide de se marier, puis après 5 ans, il se sépare. Là, ils sont mariés. Ils ont des droits, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que là, un juge va leur donner quelque chose parce que vous avez été ensemble 5 ans? Il y a une conséquence à la chose? À part le fait qu'imaginez, dans les 5 ans, ils ont acquis des meubles. Peut-être ils ont acheté une auto ensemble. Mm-hmm. Peut-être l'auto est enregistrée au nom de l'un et pas de l'autre. Est-ce qu'il devrait avoir aucune règle pour baliser la séparation? Certes, après 5 ans et aucun enfant et chacun travaille ou les deux demeurent aux études, ils vont rien avoir à partager. Il n'y aurait pas de pension. Mais c'est pas le mariage qui est un chèque en blanc. Le mariage n'est pas comme un carnet de chèques pré-signé pour l'autre conjoint. lorsque rien ne se passe dans l'union qui crée une inéquité. Mm-hmm. Et même à là, tout ce qu'on veut protéger, c'est assurer que le couple sépare les biens qu'ils ont acquis ensemble équitablement.
Mais je pense que dans le jeune couple aurait tout avantage à faire un contrat de mariage qui stipule vraiment quelles sont les règles, parce que qu'il n'y ait pas de règles, je suis d'accord avec vous, il en faut. En même temps, dire les conjoints de fait, on les qu'ils aient des enfants ou non, ont les mêmes responsabilités que les conjoints mariés. Je sais que ça va faire beaucoup réagir mes auditeurs. D'ailleurs, on va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Êtes-vous d'accord avec ce que vient de nous expliquer Maître Goldwater, c'est-à-dire que les conjoints de fait, qu'ils aient des enfants ou non, devraient avoir les mêmes responsabilités au moment de la séparation que les couples mariés? À tout de suite. On s'intéresse donc au statut des couples au Québec, conjoint de fait versus couple marié. Là, il y a un nouveau combat juridique pour l'égalité des conjoints de fait au Québec qui est mené par Maître Goldwater, mon invité. Richard, vous n'êtes pas du tout en faveur de ce que prône Maître Goldwater?
Non, je dirais pas 100% pas d'accord, mais avec un fort pourcentage. Parce qu'il faut faire des différences. Là. Tu peux faire ta vie avec quelqu'un, tu peux être avec quelqu'un par accommodation. Je m'exprime pas aussi bien que Mme Goldwater. Je n'ai peut-être pas les connaissances des lois de Mme Goldwater. Mais ce que je veux vous dire, c'est mon expérience de vie à moi. J'ai eu 30 ans de vie de couple, puis j'ai eu 3 enfants. Puis oui, c'était normal que quand je me sépare, qu'on ait toute moitié-moitié. Puis écoute, elle méritait au moins la moitié. Elle allait travailler fort dans le couple. Mm-hmm. Maintenant, je suis en couple depuis quelques années par accommodation. Puis, au niveau du gouvernement, je suis un couple, là, j'ai pas le choix. On est conjoint de fait.
Ah, okay? Par accommodation, excusez-moi, juste pour préciser, Richard, par accommodation, vous voulez dire on est un couple?
On partage les coûts, on est un couple, mais c'est pas pour fonder une famille.
Êtes-vous coloc? J'essaie de comprendre. Êtes-vous coloc ou vous êtes coloc amoureux?
T'es en couple. On est en couple par accommodation en vieillissant. Là. C'est pas de faire ta vie avec la personne puis d'année tout ce que t'as par après. Là. On a un passé, on a des enfants. Mes enfants, j'ai tout donné. La mère de mes enfants, j'ai tout donné après 30 ans. Mm-hmm. Quand tu refais des vies de couple, c'est souvent pour... Bon, ça a été souvent 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, pour le gouvernement, t'es considéré comme étant un conjoint de fait. Là.
Ouais.
Moi, j'ai pas à payer la part de la femme avec qui j'ai fait un bout de chemin. On fait des bouts de chemin avec des personnes. Si on veut dire que le conjoint de fait, il faut qu'il paye sa part, comme une personne mariée, je suis d'accord. Quand tu te maries, c'est pour la vie. Mm-hmm. Quand tu fondes une famille, c'est pour la vie. La même optique que le mariage. Ça, je suis d'accord qu'il faut que tu partages des coûts. Sinon, c'est vraiment injuste. Mm-hmm. Mais après ça, on est des conjoints de fait par rapport au gouvernement qui nous oblige à devenir conjoints de fait. Écoute, on reste ensemble, ça nous aide. Je ne vais pas faire ma vie pour la personne qu'elle n'a plus nécessairement. Mm-hmm. Comprenez? On ne peut pas...
Je comprends tout à fait. Sauf qu'un couple par accommodation, Richard, malheureusement, c'est pas un statut, va nous dire Maître Goldwater. Merci, très intéressant, parce qu'ici, Maître Goldwater, Richard l'a dit, il l'a séparé 50-50 au moment où il s'est séparé de sa première conjointe, avec qui il n'était pas marié, mais conjoint de fait. Donc, lui, il comprend ça. En même temps, c'est intéressant ce qui amenait aussi sur l'appauvrissement, puis plus on avance, des fois, on est... Ce qu'il voulait dire par accommodation, par accommodement, c'est-à-dire, bon, on est ensemble parce que c'est aussi plus économique, même si pour Revenu Québec, on est imposé aussi comme conjoint de fait. Il y a beaucoup de questions par rapport au statut comme tel. Des auditeurs veulent savoir, peut-être nous rappeler, qu'est-ce que c'est être conjoint de fait, là? Quels sont en ce moment les droits et responsabilités des conjoints de fait entre eux?
Je tiens à dire en premier lieu quand même qu'il faut saluer Richard pour faire la preuve. Il y a plein d'hommes, et puis on ne les reconnaît pas assez souvent, que par leur sens d'honneur personnel vont savoir et vont dire, regarder publiquement, vont dire, écoutez, ma conjointe, elle a travaillé fort pour élever nos enfants, puis présentant de vie commune. Il a dit, écoutez bien, elle a mérité la moitié de nos affaires, un minimum. Mais moi, je veux plus entendre ces voix-là. Quant au conjoint de fait, je reconnais un peu dans ce qu'il a dit aussi. Parfois, en vieillissant, c'est vrai, des gens qui ont peu de moyens vont partager la vie, pas nécessairement comme des amoureux, mais littéralement par la force des choses, surtout depuis un an et demi, on sait, l'économie a failli se noyer avec la COVID. Alors, les gens peuvent choisir de vivre ensemble juste pour ne pas demeurer seuls et pour avoir les moyens de le faire. La différence, c'est quand il y a pour moi une relation amoureuse. Et comme vous le voyez, il l'a dit, et ça, je réponds à votre question, pour les gouvernements, pour le gouvernement fédéral et provincial, vous êtes considéré l'équivalent de marié de toute façon. La Cour suprême nous a dicté depuis des décennies maintenant que c'est discriminatoire de faire une différence entre les couples mariés et pas mariés, à quel point que dans la science, quand on fait des études sociologiques, psychologiques, etc., on traite les couples mariés comme les non-mariés, comme équivalents. Parce que dans l'époque moderne, les jeunes couples n'ont plus la pression de l'Église pour s'accoter et fonder une famille. Et de nos jours, c'est plus en plus que les religieux qui vont tout de suite passer par l'Église ou le mosquée ou le synagogue avant de faire vie commune. Il y avait une époque, vous savez, on n'est pas jeune.
Mais donc, la différence, Matt Goldwater,
regardez la différence ça fait.
La différence entre conjoint de fait et couple marié, puisqu'on le dit au niveau des gouvernements, au bout de, c'est quoi, c'est 3 ans ou c'est 1 an? Parce qu'il y a France qui me dit les conjoints de fait sont reconnus comme conjoints bénéficiaires pour le fonds de pension après 3 ans de vie commune. Et je crois, après 1 an, le fonds de pension, mais pas certaine. C'est quoi la règle ici?
Chaque loi est différente. Au début de cette évolution-là, c'était assez étanche. C'était 3 ans de vie conjugale ou 1 an avec un enfant. Maintenant, ils ont allégé ce standard dans beaucoup de lois pour que ça soit juste 1 an tout court. Un an de vie conjugale suffit. Écoutez, quand vous regardez vos déclarations d'impôts, vous n'avez pas 4 enfants plus qu'un an, puis vous allez recevoir votre déclaration où déjà votre partenaire est indiqué comme étant avec un état civil conjoint de fait. Donc, le message que les gouvernements font miroiter aux citoyens, et les banques font la même chose, les banques, les commerces, les gyms où on veut s'adhérer, un peu partout, ils vont véhiculer le message à tous qu'on ne va pas discriminer. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes considérés l'équivalent marié. Et c'est quasiment impossible de défaire ce message social au couple.
On a Cynthia qui est avec nous. 34 ans de vie commune, Cynthia, c'est bien ça?
Oui, bonjour et merci pour le sujet. Moi, premièrement, je suis divorcée d'un premier mariage il y a longtemps. Mm-hmm. J'ai connu quelqu'un à la fin de la trentaine. Je suis avec lui depuis 34 ans. Nous avons acheté une maison ensemble. Je n'ai pas d'enfant avec lui. J'ai un enfant d'une autre relation. Et quand moi, je prends ça très à cœur parce que j'ai l'impression qu'on nous met dans une catégorie d'être obligés. Moi, je considère que je suis adulte, mature, et c'est pas vrai qu'une deuxième fois, je vais être considérée comme mariée. Ni par la loi, ni par la religion, ni par le côté financier. J'exige et je veux garder ma liberté. Si les gens qui n'ont pas d'enfants veulent rester ensemble comme moi, on peut très bien aller faire des papiers chez le notaire. Mais ça regarde nous. Je ne veux pas que maître ou n'importe qui décide qu'on va être marié automatiquement parce qu'il va y avoir beaucoup d'abus de gens qui vont profiter de l'autre parce qu'elle est mieux nantie et qui vont avoir... Et moi, ma fille, quand je vais décéder, c'est à elle que je vais laisser ce qui m'est à moi, même avant que je le connaisse, soit un héritage, soit moi moitié de ma maison, soit peu importe, c'est à moi. Et c'est mon choix de ne pas vouloir m'avoir mariée parce que j'ai compris qu'après la première fois, c'était assez. Alors, je ne désire pas. Nous sommes, comme disait monsieur avant, on devient des amis, on reste dans la même maison, mais le style amoureux, ça s'en va avec le temps. Et on est des copains et on a chacun notre compte de banque et on met ensemble qu'est-ce qu'on doit payer pour la maison, les responsabilités. Et j'espère que je suis une citoyenne québécoise, canadienne, qui est considérée assez intelligente pour savoir ce qu'elle fait et que mon conjoint qui accepte sait ce qu'il fait. Merci. Ça, je refuse qu'on nous marie par le finance et ça arrange beaucoup les avocats. Plus d'affaires à faire parce qu'étant donné que beaucoup de Québécois vivent conjoints de fait, ils peuvent pas aller chercher parce qu'ils s'arrangent à l'amiable. Mais la femme peut être autant perdante qu'elle peut être gagnante dans cette histoire. Et il va y avoir beaucoup de violence parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à cause de ça.
Merci beaucoup, Cynthia. C'est très clair. Il y a Dana, un homme qui me dit, si cette loi est votée, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver seules. Les hommes feront tout pour éviter la vie commune et je les comprends. Le mot de la fin, rapidement, idéalement, docteur, pardon, Matt Goldwater.
Ah, oh bon, c'est très simple. Mais vous voyez à quel point il y a mécompréhension de droits et obligations reliés au mariage et c'est ça qui ruine la sauce. Les gens continuent à penser comme Cynthia que si elle devait marier son chum, que soudainement il aurait accès à tous les avoirs qu'elle a bâtis pendant une vie qu'elle aurait souhaité laisser à sa fille. Et ça, c'est faux, archi faux. Bien au contraire, tout ce qu'on a avant n'entre ni dans un mariage, ni dans une union de fait. J'ai drôlement quand même l'impression, à l'écouter se fâcher davantage, que peut-être elle est l'époux, le conjoint plus fortuné dans sa relation. Mm-hmm. Mais il faut qu'elle sache, si à la fin de ce... Parce qu'elle a dit qu'ils ont acheté la maison ensemble. Alors, ouais. Si tel est le cas, la relation est équitable, pourquoi est-ce qu'elle est fâchée?
Ouais.
S'ils ont déjà tout partagé, il n'y a pas de raison de se fâcher.
Ouais. C'est une question de principe, j'ai l'impression, Matt Goldwater. C'est une question de principe.
Pas quand on se fâche comme ça. Et ouais. Elle ne réalise pas que son conjoint de fait pourrait la poursuivre pour enrichissement injustifié au cas où il aurait contribué plus que la moitié à la maison. Vous comprenez?
Ouais.
C'est faux de penser que les conjoints de fait n'ont aucun recours. Ils ont juste des piètres recours. Moi, je veux stabiliser les choses pour que les gens mènent leur relation exactement comme Cynthia le fait. Ce qu'elle fait, parfait. On a acheté la maison ensemble, on contribue aux dépenses ensemble. C'est quoi le mal de ça? Mais j'ai vu de cas où c'est pas le cas. Et c'est ces gens que je veux protéger. Les femmes qui ont déjà pris la peine de se protéger à force de leur éducation, leur expérience, le divorce antérieur, elles n'ont pas besoin de ça. Et le but, c'est certainement pas pour enrichir les avocats. Au contraire, mon élan vient nous appauvrir parce que ça va rendre ça plus facile de gérer les ruptures de tous nos conjoints de fait clients qui viennent et puis c'est chaotique, anarchique et on n'a pas de règles.
Merci beaucoup, Matt Goldwater. On va suivre toute cette cause, bien sûr. Puis c'est important de discuter des droits des conjoints et des couples mariés parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait claires. Là. Merci, Maître Anne-France Goldwater, est avocate en droit de la famille. Et justement, puisque c'est la Journée internationale des droits des femmes en pandémie, on l'a vu, les femmes sont plus pénalisées que les hommes. Maître Goldwater, il faisait un peu référence. Je vais vous demander, qui porte le poids de la charge mentale chez vous? À tout de suite, tout le monde.